Bonjour à tous, je vous invite à la prière. Oui Seigneur, nous sommes à tes pieds pour t'adorer, pour te dire ô combien tu es grand, merveilleux, pour dire ô combien en toi tout est beauté, pour dire que tu es notre Dieu. Et nous sommes aussi à tes pieds pour être à ton écoute et nous te prions Seigneur pour que oui nous soyons dans une écoute attentive pour contempler encore ô combien tu es rempli de grâce et de compassion. Et nous te prions pour ceux qui ne verraient pas encore cela, Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir ô combien tu es bon. Et nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons tous déjà entendu ou pensé nous-mêmes on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je suis le mieux placé pour savoir quels sont mes besoins, ce qui est le mieux pour moi. Le mieux pour moi, c'est ma volonté. Beaucoup de personnes pensent ainsi. Et nous-mêmes, il nous arrive de penser ainsi. Mais ce matin, Dieu, à travers le texte que nous allons voir, veut nous mettre en garde contre cela. Il veut nous appeler, nous inviter à rechercher plutôt ce que Christ désire pour nous. Et donc, pour voir cela, nous allons ouvrir dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, et nous lirons les versets 32 à 50, pour voir trois raisons pour désirer ce que Christ désire. Trois raisons pour désirer ce que Christ désire. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 32 à 50. Lisons. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit. Nous avons appris de la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé » Qui est ce Fils de l'homme ? Jésus leur répondit « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. « Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Ésaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Notre premier point donc notre première raison qui nous invite à désirer ce que Jésus désire. C'est parce que son désir est meilleur. Les versets 32 à 36. Nous sommes au chapitre 12 de l'évangile de Jean et le ministère terrestre de Christ, qui a duré au total 3 ans, touche à sa fin. Et durant ces 3 années de ministère, Jean nous raconte que Jésus n'a cessé d'enseigner à tout ce qu'il rencontrait, depuis le chapitre 1 jusqu'à notre chapitre 12 de ce matin, qui il était. Il a dit « Je suis le Fils de Dieu, le Messie, le Christ promis par Dieu. » Ce qu'il était venu faire, Jésus a dit qu'il était venu pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croiront en lui. Et comment ce salut devait s'accomplir. Et nous voyons cela dans les versets 32 et 33 du chapitre 12. Il dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. Et alors qu'il enseigne à nouveau ces vérités, la foule présente dit, répond au verset 34, « Nous avons entendu de la loi, de l'Ancien Testament, que le Christ demeure pour toujours. » En effet, lorsque on ouvre l'Ancien Testament, en Ésaïe chapitre 9, verset 6, en Ézéchiel chapitre 37, verset 27, en psaume 72, 17, ou encore psaume 89, verset 36 et 38, tous ces textes nous annoncent un Messie éternel, victorieux, triomphant. Et c'est ce Messie que nous attendons. Comment donc peux-tu dire « il faut que le Fils de l'homme soit élevé » ? Comment toi, Jésus, tu peux dire qu'il faut que nous attendions un Messie qui meurt ? Et la foule, cette foule rajoute avec une pointe d'ironie, « mais qui est ce Fils de l'homme ? Qui est ce Messie étranger à ce que la parole de Dieu annonce ?» La foule ne peut pas croire et ne veut pas croire en ce Messie souffrant que Jésus enseigne et qu'il incarne lui-même. Leur rébellion contre Dieu, qui les conduit à l'incrédulité, les empêche de croire en ce Messie. Cette même rébellion et incrédulité qui les pousse à la sélectivité dans leur lecture et dans leur compréhension des Écritures. Oui, dans un sens, la foule a raison et elle croit bien. En effet, dans l'Ancien Testament nous parle d'un Messie éternel, puissant, victorieux, triomphant. Nous avons mentionné ces passages. Mais l'Ancien Testament nous parle aussi de ce même Messie qui sera exclu, souffrant, blessé, meurtri, faible. Ce Messie qui meurt. Genèse 3,15 nous en parle. Ésaïe 50, verset 6. Le magnifique chapitre 53 d'Ésaïe, et plus particulièrement les versets 3 à 7. Zacharie 12, 10. Daniel 9, 26. Ou encore le psaume 22. Les références qui parlent d'un Messie faible, souffrant, ne manque pas. Et elles sont claires et explicites. Et en 3 ans, toutes ces personnes qui suivaient Jésus ont eu tout le temps pour vérifier si l'enseignement de Jésus était conforme aux Écritures de l'Ancien Testament. Mais visiblement, soit le travail n'a pas été fait, ou soit il a été fait, mais que malgré la concordance des enseignements de Jésus avec ceux de l'Ancien Testament, ils ont tout de même choisi de ne pas croire, de rejeter cet enseignement que Jésus présentait. Car en réalité, dans les deux cas, les Juifs de l'époque ne voulaient pas réellement du Messie de Dieu. Celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament, éternel, puissant, triomphant, victorieux, mais aussi exclu, souffrant, faible, qui meurt. Ce qu'il voulait, c'est un Messie qui matche parfaitement à leurs attentes, à leurs besoins, à leur propre volonté. Un Messie impressionnant, éternel, puissant, capable de chasser l'envahisseur romain. En fait, ces Juifs du premier siècle avaient décidé eux-mêmes de ce que le Messie devait être et ce qu'il devait faire. Et ils n'ont pas hésité pour cela à tordre, à contorsionner la parole de Dieu pour la faire entrer dans la boîte de leur propre volonté. Ils se sont fait Dieu à la place de Dieu. Et donc, pas étonnant de voir ces Juifs qui refusent d'entendre et de croire dans le Messie enseigné par Jésus et incarné par Jésus lui-même. Ce Messie qui est annoncé par Dieu dans l'Ancien Testament. Ils sont aveuglés par leur propre incrédulité et leur propre rébellion. Et ça, c'est terrible pour eux. Car en fait, ils sont en train de rejeter le Messie qu'ils attendent tant, celui promis par Dieu dans l'Ancien Testament, celui qui vient pour leur faire du bien, pour les sauver, pour les libérer de leur réel ennemi, qui est le péché qui conduit à la mort éternelle. L'attitude, la réaction de la foule face aux enseignements de Christ doit nous poser question. Sur quelle base reposent mes croyances concernant Dieu, Christ, l'Église, la manière dont je vis? Elles reposent sur ce que je pense bon et juste, sur ma volonté. Et dans ce cas, alors, je vais piocher dans les textes bibliques, j'en prends certains, j'en omets d'autres, je tords, je contorsionne la parole de Dieu pour la faire entrer dans la boîte de mes désirs et de ma volonté, ou alors mes croyances et mes pratiques qui en découlent sont le fruit de toute la sagesse et de toute la parole de Dieu, sans compromis, sans sélectivité. Et cela même si ça va à l'encontre de mes préférences, de mes désirs. Est-ce que je me fais Dieu à la place de Dieu, ou alors Dieu est au contrôle total de toute ma vie? J'ai confiance en tout ce qu'il me dit pour le suivre. Suis-je incrédule ou ai-je une foi authentique en Dieu? Posons-nous sérieusement la question, car nous allons le voir, persister dans son incrédulité a de graves conséquences. Qui est ce Fils de l'homme? Jésus ne prend même pas la peine de répondre à cette question. Car durant 3 ans, il n'a cessé de le faire. La foule a entendu beaucoup plus qu'elle n'en avait besoin. Et elle avait tous les éléments, donc, en sa possession pour comprendre que le Messie enseigné par Jésus et incarné par lui-même était celui promis dans l'Ancien Testament. Et donc, Jésus ne va pas répéter de nouveau ce qu'il a déjà dit à maintes reprises. Mais le Seigneur va tout de même leur dire quelque chose. Au verset 35 et 36, il leur dit « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. » Ce que Jésus vient de dire à la foule nous montre à quel point il est un sauveur et un Seigneur patient, rempli de bonté et de bienveillance. En effet, face à l'incrédulité persistante de la foule, Jésus aurait pu très légitimement dire « Tant pis pour vous, C'en est assez. Vous êtes des cas désespérés. Je vous abandonne. Ou il aurait même pu les menacer. Et c'est comme ça que nous avons tendance à fonctionner, n'est-ce pas? Lorsqu'on n'arrive pas à se faire entendre ou comprendre, on s'agace, puis on menace. Ou alors ce qu'on fait, c'est on abandonne. Allez, je te laisse. Mais notre Seigneur n'est pas comme ça. Plutôt que de les abandonner ou de les menacer même, par désir de les voir sauvés, il va leur laisser un bon avertissement. Bon dans le sens de bienveillant, pour leur bien. Jésus les avertit encore de l'urgence et de la possibilité encore présente de croire en lui et de marcher à sa suite afin de vivre des vies pour sa gloire. Et cela de manière éternelle, pour échapper à la mort, aux ténèbres éternelles. Et il leur donne en fait ce bon avertissement parce que l'heure de sa gloire approchait. L'heure où il devait mourir, ressusciter et être enlevé au ciel allait bientôt arriver. Et puisque cette foule n'a pas cru alors qu'elle a vu, comment pouvait-elle croire sans voir une fois Christ parti? C'est pour ça que Christ leur donne ce bon avertissement, ce bon rappel. Jésus ne se lasse jamais de revenir à la charge pour avertir, pour communiquer son désir de voir des hommes se détourner de leur rébellion, de leur incrédulité, et pour croire en lui, marcher à sa suite afin d'échapper aux ténèbres, à la mort éternelle, loin de la présence de Dieu. Cet avertissement bienveillant de Jésus, il s'adresse à toi ce matin, qui est encore peut-être perplexe à son sujet, qui a entendu à maintes reprises l'Évangile et donc tu n'as plus besoin d'entendre, mais peut-être as-tu besoin d'entendre ce bon avertissement. Détourne-toi, abandonne ton incrédulité, ta propre volonté, tes propres désirs pour croire en la lumière du monde, croire en Jésus. Marcher selon son conseil, son désir, dans la lumière, afin de devenir toi-même un enfant de lumière. Ce matin, il est encore temps. Ce matin, c'est encore le moment propice pour désirer ce que Jésus désire pour toi. Certes, Jésus n'est plus présent physiquement aujourd'hui. Il est au ciel, à la droite de Dieu, donc nous ne pouvons plus le voir pour le croire, mais il ne nous a pas laissé sans preuves convaincantes et puissantes. Premièrement, Jésus nous a laissé son esprit, qui œuvre dans le cœur de chaque homme, qui convainc de péché et de besoin de salut en lui. Son esprit est à l'œuvre aujourd'hui. Deuxièmement, Jésus nous a laissé sa parole qui est une lampe, une lumière pour nous, qui nous présente la vérité et qui nous convainc de la vérité. Nous avons aujourd'hui toutes les preuves puissantes et convaincantes que Jésus est bien le Messie dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, c'est le moment propice pour croire en Christ et marcher à sa suite, car aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Viendra un jour où, et ce jour est proche, où il sera trop tard, car ce sera le temps du jugement. Et donc, mon vœu et ma prière pour toi, qui est peut-être encore perplexe au sujet de Jésus, c'est que dès aujourd'hui, que le désir de Christ, le meilleur qui soit, soit le tien. croire en lui, marcher à sa suite, devenir un enfant de lumière pour échapper à la perdition éternelle et vivre éternellement pour lui. Pour nous qui croyons déjà, eh bien, gloire à Dieu, gloire à Christ pour cela. Mais j'ai aussi quelque chose pour nous. Ce désir de Christ doit rester le nôtre. Nous devons veiller à ce que chaque jour, à chaque instant de nos vies, nous ne voulions rien d'autre que ce que Christ désire. Nous devons veiller à demeurer dans la lumière, persévérer à être des enfants de lumière, vivre dans l'obéissance et dans la soumission à ses désirs, à son conseil, à sa volonté pour nous, en nous laissant renouveler par son esprit, façonner par lui, en restant fidèlement attaché, fermement attaché à sa parole. Et donc, mon vœu et ma prière pour chacun de nous qui avons déjà placé notre confiance en Christ, c'est que sa vision soit la nôtre à chaque instant, à chaque moment, dans chaque circonstance de nos vies. Et cela pour sa gloire et pour notre plus grand bien. Deuxième raison pour faire le désir de Christ le nôtre, les graves conséquences de nos désirs incrédules. Les versets 37 à 43. Face à l'enseignement de Jésus et son avertissement bienveillant, nous voyons au verset 37, nous lisons ceci, « Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. » Ils ont tout pour croire, tous les éléments, même plus qu'ils n'en ont besoin, et cependant, ils continuent à rejeter. Combien de personnes dans votre entourage qui ne croient pas en Dieu, en Christ, qui sont des rebelles à Dieu, qui ont entendu l'Évangile, se sont convertis? Est-ce que il y en a des masses? Non, pas des masses, n'est-ce pas? La plupart continuent à rejeter, malgré les preuves convaincantes. Mais ne soyons pas surpris, ne soyons pas découragés dans nos efforts d'évangélisation, lorsque nous sommes confrontés à ce refus, lorsque nous sommes confrontés à cette incrédulité. Si nous ne voyons pas beaucoup de Belges ou de Nigériens se convertir à Christ, c'est normal. Dieu avait prédit cela par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, c'est ce que nous voyons au verset 38. C'est normal que des gens rejettent Christ. Mais Dieu a aussi prédit, et nous l'avons lu tantôt en Michée, hein, que d'autres viendront et croiront, et ils seront sauvés. Et donc, malgré le refus, continuons à partager l'Évangile en sachant que Dieu a promis qu'il sauverait des personnes et que beaucoup de personnes viendraient à lui. Et donc, continuons à partager l'Évangile autour de nous, malgré le refus, malgré l'incrédulité. Ensuite, l'apôtre Jean nous donne les causes de l'incrédulité face à Jésus, qui sont au nombre de deux. Première raison, versets 39 à 40, nous lisons. Ésaïe a dit encore pourquoi il ne pouvait pas croire. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison de l'incrédulité, versets 42 et 43. « Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Et j'aimerais maintenant m'attarder sur ces deux raisons à l'incrédulité qui nous sont données par l'apôtre Jean. La première, tout d'abord, c'est Dieu qui aveugle, c'est Dieu qui endurcit les cœurs afin que les hommes ne voient pas, afin qu'ils ne comprennent pas, ne se convertissent pas, ne soient pas guéris et donc ne soient pas sauvés. Et nous devons être sûrs de bien comprendre ce qui est dit là. Car si nous comprenons mal, on pourrait dire bah, « c'est injuste, on n'y peut rien ». Si c'est Dieu qui décide, si c'est lui le chef, si c'est lui qui est au contrôle de tout et qu'il nous endurcit, qu'il nous aveugle, eh ben on n'y peut rien, c'est lui qui décide. Alors c'est injuste et alors on se met à blâmer Dieu. Et beaucoup de gens font ça. Oui, Dieu endurcit, Dieu aveugle, mais, et c'est très important de comprendre cela, il n'endurcit pas. Il n'aveugle pas des innocents, des gentils, des saints, des hommes et des femmes qui sont bien disposés, qui sont prêts à l'écouter et à lui obéir. La parole de Dieu est claire. Tous les hommes, sans exception, sont pécheurs, rebelles, ennemis de Dieu, ont le cœur dur face à Dieu et à sa volonté. Et donc, ce que Dieu fait devant la dureté du cœur humain, c'est de les rendre plus durs, c'est-à-dire laisser ces cœurs aller à ce qu'ils désirent vraiment. C'est ce que Dieu fait. Et s'il y a bien une chose dont on ne peut pas accuser Dieu, c'est bien d'injustice. Car si Dieu devait appliquer sa justice parfaite, ce serait la mort instantanée pour toute l'humanité entière, en un instant. Car le salaire du péché, c'est la mort. Or, Dieu fait preuve d'une grande compassion, d'une miséricorde infinie. Il laisse les hommes rebelles aller à ce qu'ils veulent. Mais en fait, sa miséricorde va bien au-delà pour les hommes et les femmes rebelles au cœur endurci. Ça va bien au-delà. Dieu appelle, Dieu invite, Dieu avertit à venir à lui, à changer, à croire, à placer leur confiance dans la lumière du monde pour être changé, transformé et sauvé. Il va même jusqu'à, et ça c'est injuste, sauver des hommes et des femmes qui ne méritent pas d'être sauvés. Donc la première raison, l'origine de l'incrédulité, en fait, c'est notre propre incrédulité. Dieu ne fait que nous laisser aller à ce que nous voulons vraiment. Deuxième raison à l'incrédulité, c'est rechercher la gloire du monde plutôt que la gloire de Dieu. Verset 42 et 43. Nous lisons « Beaucoup crurent, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Dire « Je crois en Christ » ne suffit pas. Dans son avertissement bienveillant que nous avons lu au verset 36, Jésus dit « Croyez en la lumière afin de devenir des enfants de lumière. » Dire de sa bouche « Je crois en Christ, mais en fait, je continue à vivre comme avant. Je continue à faire, à dire, à penser ce que le monde veut. Je suis le courant. » Eh bien ça, c'est une foi incrédule. Une foi qui ne croit pas vraiment. Qui se cache, qui ne veut pas vivre pour la gloire de Christ, qui ne veut pas rayonner pour la gloire de Christ. Et donc, c'est une foi qui ne sauve pas. Attention à ne pas persister dans l'incrédulité, dans la rébellion, dans le rejet de Christ et de sa volonté, car les conséquences de cela sont terribles et désastreuses. Nous l'avons vu tantôt, verset 35, « rester dans les ténèbres et se perdre pour l'éternité ». Et nous le voyons plus loin au verset 47, « faire face au jugement et à la colère de Dieu au dernier jour ». Attention à ne pas persister dans notre incrédulité et dans notre rejet de Christ. Brièvement, pour terminer, troisième et dernière raison de désirer ce que Christ désire pour nous, parce que son désir est celui de Dieu. Versets 44 et 45, nous lisons « Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Nous lisons aussi versets 40 et 50. « En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. » La troisième raison pour que le désir de Christ soit le nôtre, c'est tout simplement parce que c'est le désir du Dieu Tout-Puissant, le désir du Dieu qui a tout créé, qui nous a créés. Et c'est pour cette raison que nous voulons que ce désir de Christ, qui est celui de Dieu, soit le nôtre aussi. Et donc, frères et sœurs, que notre désir soit celui de Christ, celui de croire en lui, de demeurer en lui, afin de devenir des enfants de lumière, afin d'être sauvés. Et aussi que nous brûlions d'envie de partager, de communiquer ce désir à Bruxelles, en Belgique, au Niger, partout dans le monde, en sachant que ce désir, celui de Christ, est le meilleur, celui que Dieu a toujours voulu pour le salut de tous les hommes. Prions. Seigneur notre Dieu, nous qui sommes rassemblés ici ce matin, devant ta face, nous voulons te dire ô combien nous sommes reconnaissants pour ta patience, pour ta bonté, pour ta miséricorde à notre égard. Merci parce que tu ne nous as pas traités conformément à notre injustice, mais tu nous as aimés. Tu es venu nous chercher, tu nous as avertis, tu nous as appelés, tu as transformé nos cœurs de pierre en cœurs de chair pour que nous puissions nous détourner de notre incrédulité, de notre idolâtrie, de notre rébellion et placer notre espérance et notre confiance en Christ, notre Sauveur et Seigneur. Merci pour cette grâce, merci pour la lumière que tu as fait éclater dans nos vies. Et nous te prions pour que là où il y aurait encore de l'incrédulité chez nous, eh bien que tu puisses chasser cela et que nous puissions être renouvelés par ton esprit, remplis par lui et demeurer dans ta parole pour faire ton bon plaisir. Et nous te prions pour que nous soyons aussi animés d'un amour ardent pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, que nous ayons ce désir de partager la bonne nouvelle tout autour de nous, et cela dans le but de voir toutes les nations réunies devant ton trône pour te louer et t'acclamer. Et nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen.